Son action rappelle ce que son père a fait en 1960. Après une décennie d'expérience démocratique et de multipartisme, il a dissous à cette époque le gouvernement et il a instauré un nouveau régime politique qui a duré 30 ans avec interdiction de tout parti politique.
Comment est-ce que vous analysez en fait l'explication que le roi a donnée, c'est-à-dire que le gouvernement n'avait pas eu une lutte assez prononcée contre les maoïstes ?
Le roi, en fait, il joue une sorte de partie de poker et il mise encore sur la popularité de la monarchie et ce sentiment de sécurité que le souverain procure encore, et ça c'est un fait, auprès d'un grand nombre des Népalais. Ce qu'on peut dire, si on envisage l'ensemble de la population népalaise, qui est quand même dans sa grande majorité illettrée, extrêmement pauvre, une grande partie d'entre eux désire maintenant un retour à la paix, des conditions normales de vie. Il n'est pas impossible que le mouvement en fait, du roi ait une certaine popularité auprès des villageois. En tout cas, on peut dire que c'est un pas qui va aller probablement vers une sorte de résolution du conflit qui s'enlise. Alors, ce faisant, en fait, il va aussi dans le sens des désirs qu'ont exprimés les maoïstes eux-mêmes, qui ne souhaitent pas s'adresser à quiconque d'autre que le souverain en personne, étant entendu que dans la constitution actuelle, il reste le chef des armées.
Vous voudriez dire donc que cette crise pourrait être vécue à l'intérieur avec beaucoup d'inquiétude, mais aussi dans l'attente, en tout cas, d'être rassurée par rapport à la guérilla, en tout cas.
Certainement une partie de la population, ceux qui sont encore pro-monarchistes, sont probablement un peu plus nombreux que ce que les médias veulent bien nous faire dire. Enfin, quand on va dans les villages, moi, ça m'a toujours frappé. Et je pense que côté maoïste, pour eux, ça a l'avantage de clarifier la situation. Ils ont eu sans cesse une politique visant à rendre le conflit binaire, c'est-à-dire entre vraiment le leader maoïste et le souverain. Et il y a toujours eu ces partis politiques entre les deux qui probablement, en fait, les a aussi gênés, eux, dans l'action qu'ils entendent mener. Et peut-être la situation se simplifiant, elle aboutira à une solution plus rapidement. Cela dit, il ne faut pas négliger l'armée royale népalaise. Bon, les maoïstes réussissent souvent des coups militaires assez impressionnants, mais l'armée royale a doublé d'effectifs ces dernières années. Elle est bien équipée. Il n'est pas impossible qu'une grosse opération militaire soit actuellement en train de se tramer. Enfin, c'est une des possibilités, à mon sens.
Mais est-ce que ce souverain, lui, est populaire ?
Évidemment, il a été couronné dans une mare de sang. Il est même, pour beaucoup, l'auteur du crime odieux de toute la famille royale. Cela dit, ça fait partie d'une certaine façon de l'image du souverain. Le souverain est un guerrier dans l'histoire du Népal et il n'est pas sûr que même cette image très sanglante et négative à nos yeux entache la monarchie. De la même façon, le fait qu'il ait coupé son royaume, même si c'est pour un temps assez bref, ça le replonge dans toute une tradition ancestrale. Il faut penser que le Népal a été coupé complètement de l'extérieur jusqu'en 1951. Et probablement, Gyanendra essaye de réactiver des structures très traditionnelles de la monarchie. Et ça peut avoir une certaine efficacité symbolique.